4 sur RTBF Ovio.
La première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Personne âgée. Jeune personne, mélange, étudiant.
La bibliothèque d'Asplund.
Hé, à une fois j'entends. Je dis qu'est-ce que c'est que ça?
La prison change.
Très agréable le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse, donc.
Ces lieux nous parlent.
Wallonie Bruxelles Architecture, qui est l'agence de promotion des architectes belges francophones sur la scène internationale.
C'est vrai que nous sommes là comme des facilitatrices, puisque nous sommes deux, ma collègue et moi, Nathalie Brison et moi-même. On essaie donc vraiment de leur créer des moments d'échange, de promotion de leur travail.
Stockholm, novembre 2017. Wallonie-Bruxelles Architecture, portrait croisé, par Thierry Jonico.
Wallonie-Bruxelles Architecture organise en collaboration avec la revue A+, la présentation de l'exposition qui est consacrée au bureau V+, qui s'appelle V+, Architecture Documents on 5 Projects, et qui présente 5 projets du bureau. Cette exposition a lieu dans la faculté d'architecture.
Stockholm, novembre 2017. Wallonie-Bruxelles Architecture, portrait croisé, par Thierry Jonico. Avec Nathalie Brison, Thierry Decoep, Sophie Dars, Maxime Delvaux, Amélie Dams, Roxane Legrel, Aurore Boracek, Tuve Valsten.
Là maintenant, nous allons à la librairie spécialisée architecture où nous organisons la présentation du catalogue qui est dédié à l'exposition.
Et les voix de Audrey Comtesse, Jean-Marc Simon, Benoît Moritz, Nicolas Boroukov. Et je vous dis Aurore Boracek.
Je pense international, évidemment. Donc c'est Wallonie-Bruxelles Architecture, une agence publique de promotion internationale des architectes et des métiers liés. Donc photographe d'architecture, scénographe, graphiste impliqué par exemple de la signalétique, et toutes sortes d'artistes aussi et de créateurs qui sont liés à la promotion de l'architecture. Donc notre travail consiste à assurer la promotion internationale de toutes ces personnes à travers le plus souvent des expositions pour lesquelles on fait appel à des commissaires d'exposition qui eux-mêmes font appel à toute une série d'artistes.
Mon métier est photographe et je me suis spécialisé depuis plus ou moins 5-6 ans maintenant dans l'architecture.
Et à l'occasion de cette conférence, nous avons invité le bureau d'architecture, les curateurs et le photographe Maxime Delvaux à donner une conférence sur les relations qui existent entre image, architecture, publication.
Et votre nom ?
Nathalie Brison. Nous
sommes à Stockholm. Hier, je vous ai entendu parler devant des images que vous manipuliez.
Des photographies de maquettes que j'ai réalisées dans le cadre de workshops avec des différents étudiants dans des écoles d'architecture en Belgique et à l'étranger également. Et où nous questionnons un peu cette relation entre la photographie et la maquette et comment pouvoir représenter un objet en 3 dimensions, en 2 dimensions. Des questions d'intérieur, des questions de spatialité, des questions de lumière. Et du coup, utiliser la maquette pour en fait essayer de pouvoir sentir quel sera le résultat final.
Au 19e siècle, Louis de Jaar, qui était un industriel liégeois, est venu s'implanter ici dans ce qu'on appelle les Wallonsbrück, et donc a créé de l'emploi, et donc ils ont un certain intérêt pour tout ce qui est francophone wallon. Oui.
Wallonie-Bruxelles Architecture, Stockholm, novembre 2017. Production, Cellule Architecture, Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le seul moyen que les architectes ont de montrer leur travail, au-delà du fait de pouvoir les visiter, c'est par l'image. Également par les plans, également par les 3D et ce genre de moyens de représentation. Mais c'est vrai que la photographie est assez primordiale car c'est ce qui peut montrer le bâtiment fini.
C'est Wallonie-Bruxelles Architecture qui cherche toujours à promouvoir les expositions soit existantes, soit que l'on crée nous-mêmes. Et donc pour ça, on essaye de mettre en place un réseau, essentiellement en Europe. Et donc c'est nous qui avons identifié la Suède comme intéressant pour nos architectes. Et puis nous sommes venus en prospection, on a rencontré une série de partenaires et identifié ceux avec qui on pouvait travailler.
Mais à côté de ça, je collabore aussi avec des architectes en amont de la construction de projets. Pour par exemple révéler certaines qualités sur un site, analyser des sites sur lesquels des projets devraient être implantés, pour réaliser des images de concours, etc. Et, et aussi dans le cadre par exemple d'expositions, comme ici à Stockholm, l'exposition de V+, où je réalise des images qui ont vocation à être présentées avec une scénographie ou dans le cadre d'une publication. Et donc ça implique de réfléchir à la photographie d'une manière légèrement différente qu'uniquement à des fins promotionnelles, on va dire, pour des architectes.
Ville de Stockholm, novembre 2017. Aux abords d'un petit square, avec jeux d'enfants. Couleurs, petit château fort, balançoire et façade vitrée, derrière lesquelles des gens travaillent avec une sorte de lenteur, pas d'agitation.
Je me souviens d'une photo que j'avais faite pour un bureau parisien qui s'appelle Bruteur, d'un projet qui se situe à Caen. Et ils avaient déjà fait appel à deux photographes pour faire des photos du projet. Et je n'avais pas vu les photos. Et j'ai réalisé une série de clichés. Et il y en a un que j'aimais particulièrement et qu'il n'avait jamais envisagé. Il n'avait jamais envisagé ce point de vue. C'était un point de vue arrière qui montrait une ouverture sous le bâtiment et qui mettait en relation un paysage qu'on n'avait jamais l'occasion de voir en relation avec le projet. Et ils étaient énormément surpris de cette image. Et finalement, c'est une image qui montre beaucoup maintenant parce qu'elle révèle quelque chose qu'ils n'avaient jamais envisagé du bâtiment, mais qui a énormément de qualité.
Il y a Thierry de Kuyper du bureau V+, Sophie Dars et Carlo Menon, et du photographe d'architecture Maxime Delvaux.
Par exemple, je travaille beaucoup avec, à la chambre technique en argentique, et je passe beaucoup de temps à observer les bâtiments, à déambuler autour, à essayer d'envisager différentes relations avec le paysage et la manière dont la lumière va venir accrocher le bâtiment. Et le fait de travailler en argentique à la chambre m'oblige à faire toutes ces réflexions en amont et à sélectionner les points de vue que je vais prendre plutôt que de photographier énormément de moments et puis de les sélectionner par après. Et donc c'est vrai que j'aime cette contrainte liée à l'outil qui me permet d'être beaucoup plus attentif au projet.
Façade de couleur avec arbre d'automne, vêtements de couleur.
Il m'arrive de travailler en numérique, de travailler en argentique, de travailler avec différents types d'appareils photo en fonction du propos qui doit émerger. Et c'est là où c'est souvent intéressant de travailler en collaboration avec des architectes dans le cadre d'expositions, de publications, parce que ça permet vraiment de réfléchir à une sorte de méthode, une sorte d'analyse qui va être figée, et donc d'utiliser le bon outil pour parler du bon sujet.
Recherche de la lumière, de la couleur, par le bâti.
Je trouve ça très intéressant de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'essayer de mettre en avant ces différents architectes belges et de faire voyager les expositions, parce que je pense que c'est quand même le but d'une exposition, c'est de pouvoir continuer à vivre au-delà de la première exposition. Moi, ce que ça m'apporte, déjà j'ai l'occasion de faire une petite conférence dans une librairie ici à Stockholm, donc c'est l'occasion d'essayer de montrer mon travail, mais aussi de repenser mon travail et faire cet exercice en fait d'en parler, ce qui est ce qui est assez intéressant pour moi. Et puis bien évidemment, ça m'apporte de manière personnelle le fait de faire un peu des contacts, de rencontrer des gens sur place, de peut-être créer des liens pour des futures collaborations. Mon nom est Maxime Delvaux.
Et ce matin, un ciel bleu.
Moi, je m'appelle Tove Valsten. Je suis architecte. Je travaille pour l'association des architectes suédois, Architect Sweden.
La bibliothèque, un cylindre sur un carré.
C'est chouette parce qu'au ils ont eu le prix Miss Van der Rohe, on ne les connaissait pas comme jeune agence. Moi, on ne les connaissait pas avant. On ne connaît peut-être pas assez l'architecture belge non plus en Suède. Donc moi, je suis très curieuse de voir. Et comme il y a l'exposition, comme il va ouvrir, je regardais un peu ce qu'ils font et j'ai hâte de leur entendre parler plus de leur projet. Moi, je m'appelle Tove Dumont-Valsten. Tove Dumont-Valsten. Segway, un espèce de véhicule motorisé sur deux roues sur lequel on se tient debout, qui ne fait pas de bruit, qui à mon avis est peu polluant, étant donné que la voiture n'est pas autorisée dans le quartier historique. J'imagine qu'ils ont opté pour ce moyen de locomotion.
Roxane Le Grel, et donc je travaille pour la revue d'architecture A+, qui depuis 2006 aussi a un programme culturel donc de conférences et d'expositions d'architecture, notamment en collaboration avec Beaux-Arts. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé l'exposition V+, en 2015 à Beaux-Arts. Et grâce aujourd'hui à EBA, elle voyage, elle a été à Nancy en février jusqu'à avril, et puis maintenant elle est à Stockholm.
Donc pour rentrer ce soir, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez le métro jusqu'à Ötorget, soit jusqu'à Rådmansgatan. Et les deux sont équidistantes de l'hôtel.
Alors on peut voir les maquettes. Donc c'est une énorme table avec toutes les maquettes, autant de travail et finales qui ont été réalisées pour les différents projets qui sont montrés. Puis on a décidé de ne pas mettre les tables d'exposition avec les documents graphiques, mais on en a fait des PowerPoint qui défilent dans l'espace d'exposition avec les photos des tables qui sont également dans le catalogue, donc qui ont été faites par Maxime Delvaux.
Donc ça sera la première sur votre trajet. Donc c'est peut-être mieux de descendre là et de continuer à pied. Ça, votre trajet est plus court.
Alors, ils ont installé une grande maquette qu'on a fait venir de Bruxelles.
Donc, nous, ce sont des compétences qu'on doit faire valoir, qu'on montre à l'étranger, autour desquelles on essaie de créer des saisons, à la fois culturelles, avec des conférences, où les architectes peuvent présenter leur travail, aussi des rencontres avec des clients potentiels, avec des maîtres d'ouvrage publics aussi. Et l'aspect académique nous paraît vraiment important pour l'architecture. C'est un médium de promotion, de connexion, vraiment important.
La maquette est assez grande et à côté, c'est vrai qu'au milieu de toutes ces tables remplies de livres, on a un projecteur qui a été mis en place et un écran pour que Maxime et Carlo puissent faire leur conférence. Donc ils sont en train de faire les tests techniques pour l'instant.
C'est une série d'îles reliées entre elles par des ponts.
C'est une maison qu'on a réalisée en Savoie, une sorte de maison de vacances bourgeoise, face au lac du Bourget, une sorte de site, paysage assez incroyable, une maison un peu isolée face au lac.
Alors, il y a Thierry de Kuiper de V+.
It's like something very from funny. A Swedish fairy tale.
Yeah, exactly. And so that, and that's the girl bedroom, the favorite girl.
Oh. And that's the room for the one that you don't like so much.
But after, because it was not finished, she asked to add three bedrooms.
Oh.
Comme une maison classique, disons, sur laquelle se serait venu se raccrocher petit à petit au fil des demandes, des sortes d'extensions un peu excentriques, avec des formes un peu organiques, inhabituelles. Voilà, et donc ça a fait une sorte de long parcours de commandes et de récits qui aboutit à une maison. C'est vrai, quand on voit la maquette, là, elle paraît un peu presque comme une maison pas réelle, disons, de conte de fées, comme disait la tenancière de la librairie. Et c'est vrai que... Mais elle est construite telle qu'elle, quoi, avec toutes ces extensions aux formes un peu bizarres. And then we began to dig in the hill. And here it was a wall, yeah, a stone wall.
Pendant que Thierry de Kuiper explique la maquette aux gens de la librairie, je suppose.
Donc vous avez ici une table où sont présentées une série de publications liées à l'architecture belge francophone. Il y a évidemment le catalogue lié à l'exposition, V+ Architecture Documents on Five Projects, qui sera l'objet de la conversation de ce soir.
On est dans un lieu où le volume sonore est assez bas, parce qu'en fait c'est un bistrot, mais dans lequel les gens travaillent. C'est-à-dire que tout le monde est installé à des tables devant en général des Macs. Je vois que des Macs autour. Et les gens se parlent, mais c'est clairement du travail. Chaque petite table a un luminaire de type spot comme ça qui éclaire uniquement le centre de la table. Et ce qui est marrant dans cet endroit aussi, c'est qu'on y est entré en voyant plutôt un comptoir de pâtisserie, vraiment un comptoir de bar, mais à la gauche, il y avait un petit fleuriste qui donne sur la pièce centrale aussi. Donc on circule entre un espace de travail, un bistrot et un fleuriste. Et les couleurs sont plutôt dans les gris, c'est un peu branché. Un damier dans les ocres au sol. Tout le monde est très bien mis. C'est plutôt un peu chic. C'est le quartier des architectes, c'est le quartier des boutiques branchées. Voilà. Il fait bon et ça fait du bien d'être là. Mais c'est vraiment le coworking space. Je ne savais pas que ça fonctionnait si bien en fait. Amélie Dams.
Wallonie-Bruxelles Architecture och den belgiska ambassaden i Stockholm önskar välkomna till bokrelease av det unga prisbelönta belgiska arkitektkontoret V+. Kontoret vann Miss Van der Rohe Award Emerging Architects 2017.
À l'intérieur de la bibliothèque, où je suis amené à chuchoter, le fait que le soleil soit très bas crée par les fenêtres un jeu d'éclairage qui imprime la fenêtre sur le mur en un arc de cercle très doux et latéral comme un récit.
Les magazines Hackathons, qui sont édités par Sophie Dars et Carlo Menon, les deux commissaires de l'exposition en question.
«
Hackathon, c'est un terme italien. C'est un personnage, en fait, qui profite des autres. C'est celui qui va vous piquer une cigarette ou finir votre bout de sandwich. C'est aussi le premier film de Pasolini. Film qu'on aime beaucoup parce que c'est un film amateur. C'était pas des acteurs. Et du coup, c'était un peu la position qu'on souhaitait adopter, nous, n'étant pas éditeur à l'origine ou critique d'architecture confirmée, quoi. Nous sommes uniquement quatre, il n'y a pas d'appel à contribution, on travaille exclusivement à quatre. On est deux architectes, Carlo Menon qui est plutôt critique et historien, qui fait une thèse aussi, et moi, architecte aussi, mais plutôt du domaine de la pratique, et deux graphistes qui sont Ismaël Benani et Orphée Grandhomme.
Il y a Sophie et Carlo qui font également la revue Hackathon et qui sont donc les commissaires de l'exposition.
On a tout de suite souhaité faire une revue qui s'intéresse aux documents d'architecture, parce que la plupart des revues d'architecture sont soit des revues d'actualité et du coup des magazines un peu qui montrent l'état du bâtiment tel qu'il vient d'être livré, ou alors des revues textuelles, donc des revues de critique architecturale. Et nous, on souhaitait s'intéresser au processus de fabrication de l'architecture, donc aller chercher des documents que les gens n'ont pas l'habitude de voir forcément, et surtout pas montrer les projets finis tels qu'ils sont. Donc essayer de pousser les architectes à nous livrer une part de leur métier que les gens ne connaissent pas. On s'appuie aussi sur le travail d'artistes contemporains qui peuvent nous aider à avoir une autre lecture de certains projets d'architecture. Donc c'est une revue qu'on souhaite faire quasiment exclusivement avec des images, donc il y a très peu de textes. On essaye de fabriquer une espèce de collection, comme une espèce d'exposition sur papier, où chaque contenu se réponde les uns les autres.
Comme une sculpture ou une installation où quelque chose semble immobile, mais pourtant suit le mouvement de la Terre.
On essaye de donner à ce magazine le statut d'un objet entre le livre et le magazine, et aussi le statut d'un work in progress, d'un travail en cours. Et c'est pour ça que chaque numéro est un peu la continuité du précédent, ou alors fait un rappel à un article dans le précédent. Voilà. Par exemple, on a sollicité un architecte en lui demandant de nous parler de ses images de référence et pas des images des projets qu'il réalise. Donc c'était vraiment un travail de ping-pong sur ses références personnelles. Je dis ping-pong parce que c'est souvent des conversations par mail ou en live qu'on a avec eux, c'est-à-dire qu'on va les voir plusieurs fois, on fouille dans leurs archives. C'est parfois des documents de travail avec un croquis ou un dessin annoté ou un plan d'exécution d'un ingénieur ou un plan d'un géomètre. Des corps de métier qu'on n'a pas l'habitude de solliciter aussi dans notre profession pour les exposer sur papier, quoi.
Sphère vasque de lumière.
Et peut-être de quelle manière il pourrait s'associer avec des architectes locaux qui ont le même type de démarche et pour lesquels il pourrait y avoir des connexions, voilà, qu'elles soient ici ou en retour en Belgique. Donc c'est vrai que ce qu'on essaie de privilégier, ce sont des rencontres avec des bureaux d'architecture locaux dans les différents pays où nous allons, qui ont des démarches un peu similaires, qui sont à l'écoute aussi pour savoir comment ça se passe chez nous et qui pourraient être des partenaires potentiels des bureaux avec lesquels on voyage.
Under Quellen blir det samtal och presentationer av Jörn Bihan och Thierry de Kuyper från V+. Samt Sophie Dars och Carlo Menon från tidskriften Hackathone.
Par exemple, il y a un artiste qu'on aimait bien qui s'appelle Aurélien Froment. Lui, on l'a sollicité pour le travail qu'il a fait sur le palais du facteur cheval. Il a drapé le palais avec des grands draps noirs pour juste en extraire certaines sculptures et certains fragments du bâtiment. Donc ce travail par fragment nous renvoyait à notre propre travail par fragment aussi. Et en même temps, c'était porter un autre regard sur un bâtiment que tout le monde connaît. C'est un bâtiment extrêmement populaire. Donc voilà, c'est ce genre de déplacement de regard qui nous intéresse d'amener dans la revue, quoi. Et en plus, là, ce qui était intéressant, c'est qu'Aurélien a fait une interview du restaurateur du palais. Donc de nouveau, c'est toutes les professions plus mineures qu'on n'a pas l'habitude d'entendre qui s'expriment là dans la revue. Donc ça, c'était chouette.
Och kuratorer et utställningen V+ som öppnar på KTH den 9 november.
sell it at the reception for the staff nowadays.
Wow.
It came out 3 months ago.
Ah, great.
It's a nice, nice building.
Yeah, it's nice. And inside also, it's a nice place to work?
Yeah. But we have the open landscape. And I don't favor it.
Okay, it's a new transformation of the way of working.
Une
cour ovale plutôt, qui est marquée par une très très grande quantité de fenêtres en rythme très serré, au milieu desquelles brille chaque fois une lampe ronde, comme une lune qu'on voit de chaque fenêtre. Et alors au-dessus, il y a un balcon qui donne la sensation qu'on pourrait faire le tour de ce bâtiment en courant. Ah, ça fait un peu comme si c'était une piste d'athlétisme au-dessus. Et il y a aussi deux gigantesques horloges dorées de part et d'autre qui indiquent l'heure.
Le bâtiment est assez contrôlé parce que c'est occupé par une banque, il me disait. Une banque dont visiblement le directeur est fan de l'architecte Leverenz, et il me racontait, la personne qui nous a fait rentrer, qu'il vient de publier un livre qu'il propose à tous ses employés. Donc il est à la réception, le livre, visiblement. Il vient d'avoir un livre sur le bâtiment et fait par le directeur de la banque. C'est un architecte qui est affilié à cette période de Asplund, qui, ils ont travaillé ensemble dans un cimetière qui a mis très longtemps à être réalisé dans la périphérie de Stockholm, et qui a l'air d'être un personnage encore plus étrange, qui est passé aussi par plein de phases de style, une sorte de personnage un peu en marche de l'architecture, et qui est surtout connu pour quelques églises qu'il a faites. Des sortes d'églises un peu d'atmosphère comme ça. Il y en a une qui est ici, qu'on voudrait aller voir, qui est toute en briques, mais les murs, la toiture, le sol, mais avec des sortes de jeux assez complexes, comme si ça avait été presque fabriqué à la main, certaines parties, comme s'il y avait une sorte d'artisan un peu fou qui avait assemblé des briques. Donc pas du tout une architecture lisse, c'est des murs courbes en briques, des voûtes en briques, des sols avec des agencements de briques, avec des géométries un peu étranges comme ça. Donc c'est aussi un personnage un peu en marge, qui n'est pas très connu parmi les architectes internationaux comme ça. Mais alors les gens un peu spécialistes et fins d'architecture, c'est une de leurs références, comme on connaîtrait un groupe indépendant ou un auteur un peu mystérieux. Et donc ici, c'est un bâtiment plutôt de la première période, plutôt aussi classique, une sorte de classicisme simplifié comme ça. Les chapelles, c'est plus dans la fin de sa vie, et ça, il développe une sorte de style personnel, quoi. Ça ne ressemble à rien, quoi. C'est une sorte de création tout à fait autonome, un style à lui, quoi. Alors qu'ici, il est vraiment dans de l'architecture de filiation, quoi. C'est comme s'il faisait son apprentissage un petit peu.
Les livres éclairés par des sortes de néons dirigés vers leurs tranches. Jeu de lumière sur le savoir, les yeux, la clarté.
Mais j'ai vu des images, mais j'ai pas entendu les histoires derrière. Et les entendant, j'ai beaucoup aimé de mieux connaître ces projets, parce que j'ai vraiment eu l'impression de mieux connaître les projets par les histoires qui les ont créés. Je trouve qu'il y a des histoires à la fois très sincères et très généreuses derrière chaque projet. Et ça, c'est pas toujours le cas dans tous les bâtiments qui sont construits aujourd'hui. Et donc ça fait très plaisir de voir et d'entendre.
Jeu de courbes balustrades.
Et puis une série de publications éditées par la Cellule Architecture pour la plupart, ou en collaboration avec la Cellule Architecture. l'inventaire que la cellule publie et qui donne une image de la production architecturale de qualité sur une période pour le premier de 5 ans et puis de 3 ans.
La manière qu'il regarde le programme et qu'il trouve la solution le plus juste d'une manière architecturale, qui est souvent pas la réponse attendue, mais la réponse juste. Et ça m'a touchée dans tous les projets.
Il y a les livres de la collection Vision, ceux dédiés au bureau V+, et donc c'est le cinéma souvenir qui est présenté ici. Il y a les guides architecture édités par la cellule, Mons et Liège. Il y a le catalogue de l'exposition Uncity qu'on avait créé en 2012 dans le cadre de la Biennale d'architecture d'Istanbul.
La conférence a commencé à montrer quelques images de avant-après, de là où est-ce que l'architecture est une nécessité ou pas pour ces places-là. Et si elle n'est pas une nécessité, s'il n'y a pas besoin d'une architecture, on n'est peut-être pas obligé de le faire.
Quand on doit faire une exposition sur des bâtiments qui sont éparpillé ici en Belgique et qu'on est dans un lieu en face du centre Georges Pompidou à Paris de 160 mètres carrés, comment est-ce qu'on transmet toutes ces atmosphères et vraiment ce qu'est l'architecture, c'est-à-dire de l'espace et des sensations. Donc il y a la photo, en général c'est ce que l'on utilise pour transmettre ça, mais la photo, il y a une certaine platitude, peut-être aussi une lassitude par rapport à ça. Donc l'exposition, c'était vraiment aller au-delà, et pour moi le son me paraissait indispensable. Quand Wallonie-Bruxelles Architecture m'a commandité cette exposition, pour eux, leur but était de mettre en avant la créativité des bureaux d'architecture en Belgique, Wallonie-Bruxelles. Et donc, pour moi, il fallait, à travers des projets, montrer l'ingéniosité. J'ai traduit créativité par ingéniosité des architectes par rapport à leur réaction, par rapport à la commande architecturale, par rapport au contexte dans lequel ils vont réaliser leur projet. C'est un petit peu tout ça aussi que je veux transmettre. Donc ce n'est pas simplement le projet, l'image du projet, mais vraiment l'atmosphère, rentrer dedans, expliquer comment on arrive à ces résultats.
Le catalogue de l'exposition Entrée 5 architectures en Belgique, qui vient d'être présenté à Londres en septembre dernier, il sera présenté à Montréal en septembre 2018.
5 projets.
Entrée.
Donc si on prend l'ordre de l'exposition...
Avec Audrey Comtesse.
On est dans le projet de la cage aux ours, ici à Bruxelles, réalisé par MSA et Né & Partner. C'est mis dans un contexte urbain et social très dense, très compliqué, et a réussi, alors que la commande n'était pas celle-ci à l'origine, a réussi à recréer une place dans un endroit qui est un rond-point autour duquel tournent les trams, les bus, les voitures, qui est transpercé en sous-sol, mais complètement, qui éventre en fait ce rond-point par une ligne de chemin de fer. Et donc la question qui avait été posée par la commune de Schaerbeek sous la forme d'un contrat de quartier était de rendre une lisibilité à ce lieu, en travaillant sur la périphérie de ce lieu. Et les architectes, au lieu de travailler sur cette périphérie, se rendant compte que financièrement, de toute façon, ça ne tiendrait pas, ont proposé une passerelle. Mais une passerelle qui devient place, donc une passerelle qui n'est pas quelque chose pour le passage, mais quelque chose pour s'arrêter. Donc du coup, elle devient plus large, elle offre un cheminement plus aisé, des grandes marches sur lesquelles on peut s'asseoir, de façon à recoudre le tissu urbain et à recréer l'axe historique qui existait entre la maison communale et la gare de Schaerbeek.
Thank you.
l'architecture, c'est l'espace et aussi l'espace entre les bâtiments, l'espace de la ville. Et de cette manière-là, l'architecture ne se porte pas toujours bien, mais il y a de l'espoir parce qu'il y a beaucoup de jeunes agences qui prennent l'architecture très au sérieux et qui font des trucs très bien.
Donc l'exposition reprend les projets en cours ou terminé récemment, parce qu'entre 2015 et 2017, il y a pas mal de choses qui ont avancé. Et donc, c'est ça qui est assez chouette dans le fait de la montrer à Stockholm aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de mise à jour aussi par rapport à l'exposition. Donc, on voit les projets, donc, et toutes les maquettes et tout le travail qui a été fourni pour les projets. Et puis, il y a un nouveau volet à l'exposition qui sont des photos récentes des projets en Belgique aujourd'hui. Donc on voit l'étape de recherche et de production, de création du projet, et puis on a les photos de tous ces projets aujourd'hui en Belgique et où ils en sont dans l'avancement et la matérialisation réelle de ces projets-là.
Et puis il y a également la brochure que Wallonie-Bruxelles Architecture a éditée suite à la remise du prix Miss Van der Rohe dans la catégorie émergent au bureau MSA et V+, pour le projet Navez à Bruxelles.
Le bâtiment est passif aussi, avec une consommation très très faible d'énergie. Il a un gros manteau, tant au niveau isolation qu'au niveau châssis. Dans la cage ici, c'est déjà un peu particulier, parce que là, le châssis est diminué, c'est du double vitrage. La cage d'escalier fait partie du cycle, disons, du bâtiment, mais c'est moins important. Dans les appartements, par contre, il y a un confort qui était très important, tant pour l'acoustique, mais aussi pour l'économie d'énergie du bâtiment. Et donc, tous les châssis sont triple vitrage, et il y a une isolation qui est vraiment très importante. Il faut savoir aussi que la parcelle était, sur ces aspects-là, sa grande façade était nord, totalement nord. Et donc un des aspects qui avait plu aussi au maître de l'ouvrage, c'est qu'on a réussi à dégager une espèce de patio court où il y a des terrasses, mais qui permet de reprendre, sur une toute petite parcelle, mais qui permet de reprendre le sud, et donc d'avoir un équilibre pour le bâtiment qui est très différent, et d'isoler l'ensemble de la façade nord fortement, et de en fait replier les logements sur la façade ouest et est, et de bénéficier du sud. Donc ils ont un ensoleillement direct, ce qui pour une parcelle totalement orientée nord, comme c'était pas évident à régler. Okay. On va vous montrer.
Une certaine gymnastique dans le bâtiment qui est liée à la cage d'escalier et à la géométrie du terrain.
Sur le dernier palier, les deux derniers appartements qui sont en fait les duplex, et donc on a une verrière au-dessus qui donne encore une lumière un peu différente, la vue qui est un des plus grands dégagements qu'on puisse avoir en Bruxelles, avoir des perspectives comme ça, c'est assez rare. Et on a les deux entrées d'appartements avec les cages d'escalier, et les appartements se croisent, et les deux appartements ont des terrasses en toiture et ont leur séjour pour lui ici, ces chambres là sont ces chambres-là et sont ces jours-là pour l'autre. C'est une manière de jouer un peu entre le commun et le collectif et de voir les parties qui jouent entre les parties privatives, les parties collectives, et d'avoir une ascension qui est assez agréable, je pense.
Et effectivement, une vision de la transition, je dirais, entre un tissu urbain marqué par effectivement des maisons unifamiliales étroites et un contexte actuel, moderne, de gestion de la densité, etc., et qui arrive effectivement à avoir une vision très claire, une approche prospective sur le long terme, justement, de cette transition du tissu urbain bruxellois, aussi bien sur le côté bâti que sur le côté espace public, une vision très généraliste. Sur des terrasses plutôt à l'arrière, en fait, qui donnent sur la cour, il y a plein sud, ni que du duplex et les habitants qui y habitent ont des vues dégagées sur la ville.
La cour s'évase en fait en coupe, donc devient de plus en plus large en haut. En bas, c'est vraiment un patio pour l'appartement du bas, puis c'est une terrasse qui vient s'encastrer, et après, c'est deux balcons si on veut, et puis c'est les terrasses en toiture. Donc ça permet d'avoir une lumière constante assez intéressante du côté sud.
Et donc ici, au dernier niveau, au dernier palier, on a un vrai spectacle au pied du bâtiment. Il y a tous les mouvements de la ville, où on entend un petit peu le bruit, on voit les avions qui décollent. Voilà, on est vraiment dans un espace, un lieu paysage. Voilà, on voit le pont de Billboard, on voit énormément de choses. Quand on est dans les appartements, par contre, donc ici il y a un petit peu de bruit, mais dans les appartements on n'entend rien du tout. Il y a un silence qui donne mal aux oreilles, peut-être.
Personnages qui sont les plus intéressants, c'est ceux qui bégayent un peu entre deux styles. Formation classique, beaux-arts à la française, disons, et puis le développement d'une architecture plus fonctionnaliste, et comme un bâtiment charnière, disons. L'évidence, la puissance, le caractère aussi de bâtiment collectif, grand bâtiment du 19e siècle classique, et puis une façon d'aller à l'essentiel dans le système constructif, dans la simplicité des décors, de tout le mouvement fonctionnaliste qui est à la même époque. On est après les premières maisons de Le Corbusier, juste à quelques années de la grande expo sur le style international, donc de l'architecture vraiment fonctionnaliste, quoi, qui va prendre le dessus.
Et du coup, toutes ces histoires qui créent tout un espace et qui tend vers la lumière et la liberté d'esprit, la fantaisie.
Tout le savoir avant Internet, n'est-ce pas? À 360 degrés.
Trois étages d'étagères, de livres.
C'est beau, toutes ces couleurs. On ne se rend pas compte à quel point c'est coloré, une bibliothèque.
C'est le dessin du sol du Panthéon à Rome, dans une version de nouveau très, très simplifiée, parce que c'est en linoléum. Donc un matériau tout à fait 20e siècle, mais on est dans un espace rond avec un lustre central lumière zénitale. Et dans l'entrée, il y avait des références en effet à l'Iliade. Ici, il y a des références au Panthéon. À l'extérieur, il y a des références à l'Égypte. On peut se demander si on n'a pas perdu une épaisseur narrative dans les bâtiments, notre quête d'efficacité, disons. Mais ici, c'est ça, il y a Louis Boulay, donc l'architecture idéale française. D'avoir cette facilité d'être au milieu de la pièce et de voir exactement où se situent tous les livres, c'est une bibliothèque efficace. Mais aussi, c'est une bibliothèque qui fait un récit culturel sur l'architecture, sur le monde, sur son époque. Ça, c'est une dimension un peu oubliée, je crois, de la production actuelle.
Oui, fond et forme se mélangent.
Ouais.
Cet espace central de la bibliothèque, il était assez magique quand j'étais petite. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que j'adore les histoires. Quelque chose, ça a créé, peut-être aidé à créer cette passion d'histoire, parce qu'on est allé quand j'étais petite. Et j'aime beaucoup cet espace.
Il y a un drôle d'effet d'ombre, juste de cette sorte d'enduit un peu bosselé, comme ça.
Comme si c'était enfumé.
Ouais, comme dans une grotte. Enfin, je sais pas. Comme des nuages. Ouais, tout à fait. Ouais. Éclairé par le bas pour augmenter l'effet d'ombre. Et donc ça augmente. C'est comme aussi. Ouais, c'est un effet de perspective. Un peu.
Mm-hmm. Ça, je savais pas quand j'étais petite. J'aimais cet espace où le ciel et les nuages, ça ouvrait l'imagination pour moi. Cet espace.
C'est l'antithèse de ce qu'on ferait de nouveau si on suivait la bonne logique fonctionnelle, c'est-à-dire on ferait un espace qui est absorbant, calme. Ici, on est dans un volume énorme qui résonne comme une église, et c'est une bibliothèque. Et donc parfois, c'est marrant comme quoi, par l'effet contraire, disons, on arrive à faire baisser la voix plutôt que de mettre tous des dispositifs invisibles.
Vous voyez sur le plan, il y a Langholmen, Södermalm, Gamlastan, Tjugården, et puis la nouvelle ville, Norrmalm, Kungsholmen, avec son hôtel de ville. J'ai appris le suédois, oui. Après, c'est une question pratique et d'habitude. Quand on ne parle pas pendant 10 ans, on perd un peu la langue, mais ça revient vite une fois qu'on est sur place. Et puis ça aide dans les contacts, évidemment. Les gens sont tout de suite contents, même si on ne fait pas tout en suédois, parce que y a d'autres personnes qui sont en réunion avec nous et qu'on passe tout de suite à l'anglais, mais ça aide pour le premier contact et pour lancer les choses, on va dire.
La petite sonnerie qui appelle les numéros commandés. Ici, le 62 vient de sonner. Et les gens attendent, ces préposés sont là.
Hiéroglyphe en forme de locomotive, de teckel sur roulette, de berceau, trottinette. Mais aussi des petits personnages un peu égyptiens, là, de profil. C'est la bibliothèque populaire normalement, mais abritée dans de l'extérieur, hein, comme une, ouais, un temple, une grande villa renaissance, très imposante ça, de l'extérieur. Grand bâtiment, couleur uniforme, ocre, un peu toscan. De haut en bas, que ce soit la pierre qui fait le soubassement jusqu'aux parties supérieures, une sorte d'enduit comme ça, ocre, c'est un monochrome ocre, avec des châssis, juste la porte d'entrée qui est un grand portique, comme si on rentrait en effet dans un temple égyptien, avec une sorte de portique en pierre grise, ça, tout très épuré.
Contrairement par exemple au design, où beaucoup de créateurs de meubles, disons en tout cas d'objets, de design d'objets, se rendent chaque année à Milan et viennent avec leur portfolio, essayer de démarcher des clients, de vendre leurs nouveautés à des éditeurs, etc. Pour l'architecture, il n'y a pas de moment comme ça. Et donc, pour ma collègue et moi-même, le travail de préparation en amont est assez important dans le sens où nous devons beaucoup prospecter de nouveaux partenaires. Et ce que nous cherchons dans un pays, c'est un partenaire local qui est donc un lieu d'exposition et un réseau.
Personne âgée, jeune personne, mélange, étudiant.
La bibliothèque d'Asplund.
Stockholm, novembre 2017. Wallonie-Bruxelles Architecture. Portrait croisé par Thierry Jonico. Avec Nathalie Brisson, Thierry Lecoeper, Sophie Dars, Maxime Delvaux, Amélie Dams, Roxane Legrel, Aurore Boracek, Tuve Valster.
L'architecte, c'est leur gloire nationale, un peu, c'est Gunnar Asplund. Chaque pays a un peu ses grandes figures d'architectes, surtout au XXe siècle, et lui, c'est un des. Une sorte de ces grandes figures avec un écho un peu international, même si c'est un architecte qui a jamais, je pense pas, construit en dehors de la Suède, mais c'était un. Et le bâtiment, d'ailleurs, je crois qu'il l'appelle la bibliothèque Asplund, quoi. Elle a pris le nom de son architecte, ce qui n'était pas son nom originel.
Moi, j'ai grandi à Stockholm et la bibliothèque d'Asplund, quand j'étais petite, c'était un lieu de rêve, un peu d'entrée dans la rotonde où les murs sont construits de livres et d'histoires qui se termine avec la lumière du ciel et le comme des nuages.
Et les voix de Audrey Comtesse, Jean-Marc Simon, Benoît Moritz, Nicolas Boroukov. Wallonie-Bruxelles Architecture, Stockholm, novembre 2017. Production, Cellule Architecture, Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez aimé, vous m'avez dit.
Oui, j'ai beaucoup aimé cette conférence de V+. J'ai vu surtout des photos, c'est des très belles photos qui décrivent le projet d'ailleurs.
They opted to a series of smaller stairs that could create a more difficult path that would actually leave much more room for this spatial topology. And so the pragmatic builder decided to lose this quest. So that the archaeology could create a more interesting path through the building. And there were also some quite special features like this rooftop space that was meant to be an office space, but actually, maybe the only space that was such as a just another for that one.
Hamlet et Ophélie, Roméo et Juliette, Lady Macbeth. Découvrez les héros de Shakespeare peints par les artistes romantiques français et les symbolistes belges. Shakespeare romantique au Musée Rops jusqu'au 25 février. Info museerops.be. Avec la province de Namur, le musée du Louvre et le musée national Eugène Delacroix. La première.
Météo. Denis Collard, bonne soirée à tous. Cette nuit sera bien froide avec des gelées assez marquées. Moins 5 degrés dans les vallées de l'Ardenne, moins 3 le long du Sion-Sambre-et-Meuse, moins 2 sur le centre du pays et même moins 1 au littoral avec très peu de vent. Du brouillard givrant peut se former et on peut encore avoir 2 ou 3 flocons qui virevoltent dans les cantons de l'Est. Demain matin, on se réveille avec encore assez bien de grisaille et puis des éclaircies vont se développer au fil des heures. Le temps reste sec et froid. On note des maxima de moins 1 en Ardennes, plus 1 le long du Sion-Sambre-et-Meuse et 2 à 3 degrés sur l'ouest. Dimanche, on surveillera une zone de pluie qui va nous arriver par l'ouest. Elle va amorcer un redout et au contact de l'air froid, cela pourrait provoquer un peu de verglas sur le centre du pays et de la neige qui tournera en pluie sur les hauteurs.
Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance.
Il est 23h. Tirage favorable pour les Diables Rouges à la Coupe du Monde. Les qualifications pour les huitièmes de finale ne devraient pas poser trop de problèmes. C'est un groupe excitant et diversifié, dit Roberto Martinez. En championnat, Charleroi et Ostende ont fait 1-1 ce soir. Stéphane Moreau accusé d'avoir fait pression sur une ancienne magistrate, le patron de Publifine nie les faits. Et puis le Belge paye-t-il ses bières trop chères? Abbé Inbev est en tout cas suspecté d'avoir enfreint les règles européennes sur la concurrence. Natacha Stragier, bonsoir. Un bon tirage pour les Diables Rouges pour la phase de groupe du Mondial de l'an prochain en Russie. La Belgique est dans le groupe G avec le Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Le tirage au sort a eu lieu en fin d'après-midi à Moscou. Manuel Jous y a assisté dans une des salles du Kremlin. Il a recueilli la réaction du sélectionneur national Roberto Martinez.
Now the feeling is the excitement of being able to prepare with a real.
Mon premier sentiment, c'est l'excitation, car maintenant que l'on connaît nos adversaires, on peut se lancer dans la préparation concrète pour cette Coupe du Monde. On a tiré une grande nation du foot avec l'Angleterre, qui a une jeune génération comme la nôtre en Belgique. Beaucoup de joueurs belges et anglais se côtoient en club, dans les vestiaires. Ils se connaissent, du coup ça va rendre ce match spécial. Après, il y a le Panama qui joue sa première Coupe du Monde après une qualification héroïque. Le Panama a éliminé les États-Unis. Ils vont jouer ce tournoi sans pression. Enfin, la Tunisie a été forte en qualification et c'est un foot complètement différent du nôtre.
Et les supporters qui n'ont pas encore de tickets pourront à nouveau se rendre sur le site internet de la FIFA à partir de mardi. La troisième phase de vente aura lieu du 5 décembre au 31 janvier. Et ce sera la seule manière pour les supporters belges de réserver des places dans les tribunes de la Belgique. Un exemple pour le match contre le Panama, le premier, le 18 juin à Sochi. 3800 places seront distribuées aux supporters belges. Chez nous, début ce soir de la 17e journée de championnat. Charleroi recevait au stand et a fait match nul. Thierry Luters.
Un but partout pour le match d'ouverture de la 17e journée de compétition. Charleroi qui avait été nettement battu à Ostend le 24 octobre dernier a livré une bonne première période ponctuée par un très joli but de Clément Timon, le français en fin de première mi-temps. Mais Ostend a dominé la seconde période avec pas mal de possibilités. L'égalisation tout d'abord par Moussena et puis Pento est entré en action et le gardien français d'expérience a sorti quelques arrêts décisifs et surtout celui sur un pénalty tiré par Zivkovic permettant ainsi aux Zèbres de conserver un point et leur deuxième place avec 35 unités alors que le leader brugeois en compte 40. Le Sporting de Charleroi qui entame un mois de décembre très compliqué puisque la semaine prochaine il ira à Anderlecht avant d'aller à Bruges quelques jours plus tard dans le cadre de la Coupe de Belgique. On vous rappelle donc le score de ce 10e Charleroi au stand de l'histoire, un but partout.
Stéphane Moreau, le patron de Publifin, a-t-il tenté de faire pression sur la justice? C'est en tout cas ce qu'assure une magistrate liégeoise, Nadine Jamar. Lors d'un repas au restaurant, Stéphane Moreau aurait demandé à la magistrate d'intercéder en sa faveur auprès du juge qui s'occupait du dossier de l'intercommunal. En échange, il aurait promis de s'intéresser à l'avenir professionnel de son beau-fils. Nadine Jamar assure qu'elle a réagi vivement sans concession.
Au moment où j'ai pu percevoir vraiment dans quelle pièce on me faisait jouer, je n'ai pas voulu rester. Je me suis levée, j'ai voulu régler l'addition et je suis partie.
Est-ce que vous avez déposé plainte ?
Je suis allée très rapidement, après les faits, faire une déclaration à la PJF de Liège, in tempore non suspecto, comme on dit, et bien avant que toutes les autres affaires n'éclatent, parce que je ne pouvais pas rester avec ça sur la conscience, et j'avais quand même le sentiment que je devais le faire.
Des propos recueillis par Maxime Binet. Stéphane Moreau, via son avocat, dénonce des propos mensongers. Il assure qu'il s'agissait simplement d'un repas amical et d'ailleurs que Nadine Jamar serait restée jusqu'au bout. Selon nos informations, un dossier a bien été ouvert au parquet général, mais on n'en connaît pas la nature. Le ministre de la Justice modernise le code matrimonial. Koen Gaens a présenté sa réforme ce matin. Elle doit permettre plus de possibilités en cas de divorce ou de décès. Lionel Denebourg nous explique ces changements.
L'objectif, c'est d'offrir une plus grande protection juridique, de clarifier les textes aussi, un toilettage en quelque sorte. C'est comme ça que le voit Renaud Grégoire, le porte-parole de la Fédération des notaires.
Un vrai toilettage des textes qui est quand même assez conséquent parce que ce sont des textes qui sont assez anciens et donc il y a toute une série de mesures là-dedans qui datent de plusieurs dizaines d'années, voire bien davantage encore. Et donc aller s'attaquer après le régime des successions aux régimes matrimoniaux, c'est quand même un chantier assez conséquent.
Plus de protection par exemple en matière d'assurance vie, mais aussi en matière de séparation de biens au moment du divorce.
Si vous avez à la sortie une séparation et qu'il y en a un des deux qui s'est fortement enrichi au détriment de l'autre ou que l'autre ne s'est pas enrichi parce que, par exemple, il a sacrifié sa carrière, eh bien aujourd'hui, dans le régime qui est proposé, on va permettre d'avoir dans le contrat de mariage des mesures à l'avance qui permettent de dire nous souhaitons qu'il y ait quand même une règle d'équité qui permette de rectifier le tir à la sortie si jamais effectivement il y a eu un fossé qui s'est creusé entre les deux parties.
Cette réforme du code matrimonial se veut donc en phase avec la société d'aujourd'hui et notamment avec la réalité des familles recomposées.
Le prince Laurentien a sa dotation, mais il risque d'en perdre une petite partie à cause d'une photo qu'il a publiée fin juillet alors qu'il était présent à l'ambassade de Chine à Bruxelles, un événement où il s'était rendu sans autorisation. Le Premier ministre devait entendre le prince. Malade, il s'est fait représenter par son avocat qui a écrit un vrai plaidoyer à Charles Michel. Il plaide pour que son client conserve sa dotation actuelle, indique qu'aucun dommage diplomatique d'aucune sorte n'a été engendré par le prince. Le dossier sera bientôt soumis au Conseil des ministres. Ce matin, Charles Michel l'a temporisé. Il n'a que très brièvement commenté la polémique.
Je confirme que l'analyse juridique est en cours sur base d'arguments qui ont été communiqués et que sur base de la finalisation des analyses juridiques, le dossier sera prochainement soumis au Conseil des ministres. Et c'est à ce moment-là qu'on communiquera une décision formelle. Je ne vais pas faire le débat juridique avec vous en conférence de presse aujourd'hui. J'ai procédé à une audition de l'avocat, comme vous le savez. L'avocat a eu l'occasion de faire valoir son arguments de manière orale et de manière écrite. Ces arguments nécessitent une réaction juridique, une analyse des arguments, puisque quand on prend une décision, elle doit être expliquée, elle doit être motivée. Nous travaillons sur ces sujets-là, et il n'est pas question de prendre une prédécision. On ne peut pas prendre de décision a priori, ce n'est que dans le Conseil des ministres que l'on peut formellement prendre une décision.
Une réaction recueillie par Pierre Magos. En Allemagne, un engin suspect a été découvert sur un marché de Noël à Potsdam, près de Berlin. Le ministre régional de l'Intérieur se veut prudent. Il faut encore que cela soit analysé. Nous sommes au début des investigations, a-t-il insisté. Mais les experts de la police ont neutralisé ce paquet suspect qui contenait notamment des câbles, des batteries et des clous. Une partie du marché de Noël a été évacuée. L'an dernier, celui de Berlin avait été le théâtre d'une attaque au camion Bélier qui avait fait 12 morts et plus de 70 blessés. L'enquête américaine sur les ingérences russes dans l'élection de Donald Trump s'accélère. Le procureur spécial a inculpé aujourd'hui Michael Flynn, l'ancien conseiller du président. L'homme plaide coupable et se dit prêt à coopérer avec la justice. Il semble donc que l'étau se resserre, Daniel Fontaine.
L'ancien général Michael Flynn était un membre important de l'équipe de campagne de Trump. Il est devenu ensuite conseiller à la sécurité nationale. Mais Michael Flynn a rapidement dû démissionner. Il a reconnu avoir menti sur ses contacts avec l'ambassadeur russe à Washington fin 2016. Pour le procureur, Flynn a entravé son enquête. Il a donc inculpé Michael Flynn. Présenté devant une cour fédérale, l'ancien conseiller a plaidé coupable. Il se dit prêt à coopérer avec la justice dans l'intérêt de sa famille et du pays, dit-il. Quelles informations sensibles va-t-il livrer et vont-elles compromettre le président des États-Unis ? Dans une première réaction, la Maison-Blanche souligne que ce plaidé coupable et l'inculpation n'impliquent personne d'autre que Flynn lui-même. Pourtant, le procureur affirme que Michael Flynn n'a pas contacté les Russes de sa propre initiative, mais qu'il l'a fait à la demande d'un très haut responsable de l'équipe Trump. Michael Flynn aurait reçu des instructions sur le message à faire passer à l'ambassadeur russe. La ligne de défense de la Maison-Blanche semble ce soir bien fragile.
Et ce soir encore, Donald Trump a tenté de faire taire les rumeurs d'un départ imminent de son secrétaire d'État. Les spéculations des médias selon lesquelles j'ai viré Rex Tillerson ou qu'il partira bientôt sont des infos bidons, a lancé le président américain sur Twitter. Les rumeurs d'un départ prochain du chef de la diplomatie circulent à Washington depuis l'été. AB InBev est suspecté d'avoir enfreint les règles européennes sur la concurrence. Pour la Commission européenne, la multinationale a modifié le packaging de ses canettes pour limiter les importations en Belgique depuis la France et les Pays-Bas où la bière est moins chère. Dominique Michel dirige Comeos, la Fédération du commerce et des services. Selon lui, il ne s'agit en fait que d'un exemple parmi d'autres d'abus de position dominante par des multinationales. Maxime Paquet l'a interrogé.
C'est un problème généralisé, à savoir que les grandes entreprises, les grands producteurs ont des systèmes artificiels pour imposer des prix plus élevés dans certains pays et notamment en Belgique. Donc les commerçants belges payent plus cher que les commerçants français pour certains produits de marque internationale. Ça peut être de la bière, ça peut être des céréales, ça peut être des produits électroniques. Et donc, c'est toujours au désavantage des commerçants belges. On vient de voir que la Commission a demandé et oblige maintenant les commerçants à vendre partout dans l'Union européenne. Donc, si vous, aujourd'hui, vous l'achetez en tant que consommateur en Grèce, online, le commerçant grec est obligé de vous vendre, eh bien, nous demandons que cette obligation existe aussi pour les producteurs. Et que donc, si le commerçant belge veut acheter des produits en Grèce parce qu'ils sont moins chers que les produits qu'il peut acheter en Belgique, eh bien, il faut que ce soit possible. Ça, c'est la demande que nous avons auprès de la Commission.
Et c'est la fin de ce journal. Bonne fin de soirée.